André Limbushima au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de décider dans la résolution 2098 le déploiement de la brigade d'intervention rapide dans la partie est de la République démocratique du Congo. Cette force aura pour mission de neutraliser les groupes armés actifs dans cette partie du pays. L'occasion vous est accordée, mesdames et messieurs, de commenter cette actualité dans ce débat avec comme question principale, pensez-vous que cette brigade va définitivement mettre fin à ces cycle d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Réjoignez-nous si vous souhaitez participer à cet échange à l'adresse pa@radiokapi.net ou encore appelez-nous au 081 890 63 15. Merci à Titi Poutou et Paulin Badianian pour la réalisation de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiokapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité et vous êtes nombreux, vous avez pris l'inscription pour participer à ces débats. Nous allons bientôt vous accorder la parole et aussi rappeler à certains auditeurs qui nous ont fait parvenir leur correspondance. Il y a Franck de Vienne qui a parlé de la résolution également des Nations Unies, créa une brigade offensive spéciale avec des objectifs lui assignés pour anéantir toutes les forces négatives opérant vers la partie est de la République démocratique du Congo. Pour Franck, c'est vraiment une mesure très salutaire pour le retour à la paix à cette partie soumise à des guerres fratricides depuis des décennies déjà. Nous allons lire l'intégralité de cette correspondance tout à l'heure au cours de cette émission. Mais il est temps pour nous de saluer notre invité qui est déjà dans ce studio, Manoj Mounoubaï, porte-parole de la MONUSCO. Il est avec nous pour éclairer et orienter les préoccupations des uns et des autres. Bonjour Mounoubaï, Manoj.
Bonjour, bonjour JR, bonjour à nos auditeurs de Radio Canada.
Alors d'entrée de jeu, avec cette résolution, peut-on dire, comme tout autre observateur, que les jours du M23, notamment, sont définitivement comptés?
Écoutez, en ce qui concerne les Nations Unies, tous les moyens sont bons pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Encore une fois, et d'une façon nouvelle, cette stratégie a été trouvée de mettre côte à côte une force d'imposition de la paix et une force de maintien de la paix pour toujours continuer à soutenir le peuple congolais dans sa quête d'une paix durable.
Alors, quelles seraient les limites de collaboration entre les FRDC, la MONUSCO, vous l'avez dit, la mission de maintien de la paix et la force d'intervention?
Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est une force qui sera ici et qui travaillera avec les FRDC sans limite.
Alors, Manoj Mounoubaï, quelle lecture faites-vous sur une opinion, je vous ai parlé, de la position de l'Azado par l'entremise du groupe Lotus, qui soutient que la résolution 2098 est une attitude de nature à vouloir maintenir les statu quo dans la sous-région et à aider les forces négatives à se consolider?
C'est tout à fait une contradiction parce que au cœur même de cette résolution et de la création de cette brigade, il est dit que la brigade d'intervention devra neutraliser toutes les forces, tous les groupes armés qui opèrent à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est une contradiction de dire que, alors que la brigade a une mission de neutraliser ces forces, de dire qu'on veut créer un statu quo.
Voilà, alors maintenant que le Rwanda assure la présidence du Conseil de sécurité, d'aucuns craignent que le parrain du M23, selon leur point de vue, puisse retarder ses déploiements.
Le déploiement ne vient pas du Conseil de sécurité. Les pays qui doivent contribuer des troupes dans cette brigade d'intervention sont déjà connus. Il s'agit de l'Afrique du Sud, du Malawi et de la Tanzanie. C'est à ces pays que revient maintenant, le devoir, puisqu'ils sont déjà engagés, d'envoyer ces troupes sur le terrain. Ce n'est plus au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a pris la résolution, c'est-à-dire qu'elle a entériné cette décision qui a été prise par les pays membres de la SADC et qui découle de l'accord du 24 février, de ce côté, il n'y a plus de problème. La rapidité du déploiement de ces troupes dépend des pays contributeurs de troupes.
La durée d'intervention de ces troupes? De cette intervention, disons l'intervention, la durée de l'intervention de cette brigade.
Mais il est clairement dit dans la résolution que pour un premier temps, ce sera un an. Et le Conseil de sécurité va statuer à ce moment-là pour voir la nécessité de, ou non de poursuivre la présence de cette brigade d'intervention.
La poursuite de l'intervention de cette brigade ne pourrait-elle pas susciter encore des inquiétudes auprès de la population? Parce que s'il faut prolonger encore le mandat, s'il faut prolonger d'une année, il n'y a pas un sans deux, d'aucuns craignent qu'il y ait une suite interminable.
Mais je pense que nous entrons là dans un cycle de pessimisme et je ne voudrais pas m'inscrire là-dedans. La création d'une brigade d'intervention, doter la MONUSCO d'une force de frappe, je pense ce que la population a toujours demandé.
Chapitre
et
7.
Beaucoup de voix l'ont toujours demandé. Aujourd'hui, et c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies, dans l'histoire des maintiens de paix des Nations Unies, qu'une brigade d'intervention est mise côte à côte avec une brigade de maintien de la paix. C'est une approche innovante. Maintenant, je suis étonné que, alors qu'on est en train de donner de l'eau au moulin qui tournait depuis longtemps, qui demandait une intervention vigoureuse, il semble que personne n'en veut maintenant. Et c'est ça que... Je dis personne. Il y a des auditeurs qui semblent ne pas en vouloir. Et je suis un peu étonné.
Oui, nous avons suivi certains politiques qui ne sont pas chauds, qui parlent là d'une diplomatie de connivence internationale. S'il faut le dire ou répéter les mots qu'ils ont utilisés, la diplomatie de connivence internationale, c'est comme s'il y a une complicité internationale.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle par complicité internationale. L'accord du 24 février, qui a été signé, c'était une initiative africaine, c'est une initiative régionale, c'est une initiative de la SADC et la République démocratique du Congo fait partie de la SADC. La République démocratique du Congo a une diplomatie agissante, non seulement au sein de la SADC, mais aussi sur le plan international. La mise en place de cette brigade est aussi, je dirais, le résultat de la diplomatie congolaise qui a toujours demandé de donner plus de moyens d'intervention à la MONUSCO. Donc, il n'y a pas... Nous devons sortir, je pense, de cette idée qu'il y a une cabale qui s'organise contre la République démocratique du Congo dans ce domaine. Il y a aujourd'hui une entente. Il y a aujourd'hui, je pense, c'est l'expression aujourd'hui d'une certaine impatience, je dirais, de la communauté internationale de mettre fin à la présence de ces groupes armés qui ne font que se multiplier à l'est de la République démocratique du Congo. Ce sont des forces africaines. Comme on l'a toujours demandé ici, beaucoup de nos États l'ont toujours demandé, ce sont des forces africaines qui seront engagées dans cette brigade d'intervention. Donnons-leur d'abord le temps d'arriver. Donnons-leur la chance de commencer leur action et on pourra porter des jugements.
Alors, il y a certains analystes politiques qui pensent que, au fait, la situation de la RDC, il ne s'agit pas donc d'une agression, mais il s'agit plutôt d'une rébellion. Et dans les cas d'espèce, donc pour la dernière, il ne fallait pas une intervention autre que, disons, la MONUSCO qui était déjà sur le terrain et laissait beaucoup plus la place au FRDC de faire le travail. Parce que je ne sais pas si, à votre entendement, M. Mounoubaï, il y a une différence entre l'agression et la rébellion. Et qu'est-ce que les Nations Unies proposent à cet effet?
C'est une approche que je respecte. Vous savez, une opération de maintien de la paix, c'est ça le nom. Maintenir la paix. Ça veut dire que les factions qui signent un accord, on leur donne la chance maintenant de pouvoir respecter ces accords et de le mettre en œuvre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Les factions signent les accords, mais ne les respectent pas. Ça veut dire que le maintien de la paix, à la limite, devient inutile. Puisque cette paix, on n'arrive pas à la maintenir à cause pratiquement des mêmes acteurs qui se transforment, qui prennent d'autres formes, qui prennent d'autres noms et qui continuent à prendre les armes contre les institutions. N'oubliez pas que la MONUC, à l'époque, avait accompagné la transition 1+4 jusqu'à la mise en place des institutions démocratiques dans ce pays. Il s'agissait à l'époque, en 2006, à la fin de la transition, c'est-à-dire on ouvrait une ère démocratique dans ce pays, et les jeux politiques devaient se faire par ces institutions démocratiques. Ça n'a pas été le cas. Des personnes, des groupes ont continué toujours à prendre des armes, mais cette fois contre ces institutions démocratiques, ce qui justifiait encore la présence de la MONUSCO, qui s'est transformée ensuite en MONUC sur le terrain. Donc il faut que les gens qui signent les accords les respectent. Et dans ce cas, on n'aurait plus besoin d'une force de maintien de la paix dans le pays.
Voilà, nous allons ouvrir, notre standard pour recevoir les appels des auditeurs Rifin qui est à Kikwit, Maître Mashaka Lubumbashi et Franck Devienne. Nous allons vous accorder la parole tout à l'heure. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent nous appeler également au 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Nous prenons le premier auditeur qui va ouvrir les débats. Rifin, vous êtes à Kinshasa. À Kikwit. Bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, Rifin, tout à l'heure, quand vous prenez votre inscription pour participer à cette émission, vous vous inquiétez sur la sécurisation de nos frontières qui sont poreuses, et je crois que vous allez aborder cette question, et aussi nous dire ce que vous pensez, vous, personnellement, par rapport à cette brigade. Est-ce qu'elle va définitivement mettre fin à ce cycle d'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo?
Ah oui, JR, merci beaucoup. Bon. C'est une bonne intervention de cette brigade, mais il y a des réflexions qui s'imposent. Parce que ce qui m'inquiète d'abord, c'est le nombre d'hommes affectés à cette brigade. 3000 hommes devant les conflits armés dans cette région qui ressemble à un monstre à plusieurs têtes. Surtout qu'il y a aussi le M23. Donc je trouve que le nombre de personnes affectées, 3000, c'est vraiment insuffisant. Mais ma question est celle-ci, est-ce que on a changé le mandat de la MONUSCO au chapitre 7 pour renforcer cette brigade d'intervention spéciale. Alors, ma seconde inquiétude, c'est au sujet de la composition de cette brigade. À part l'Afrique du Sud, on nous cite là-bas qu'il y a le Malawi, la Tanzanie, qui n'ont pas une grande expérience de guerre. Et est-ce que nous allons réussir avec ces gens-là? Et en plus, la Tanzanie est un pays qui a beaucoup d'affinités, les relations avec le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda qui sont suspectés soutenir le M23. Si, est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen qu'on puisse remplacer la Tanzanie, par exemple, par l'Angola, qui a une grande expérience de guerre en ce qui concerne le domaine des rébellions? Alors, je m'inquiète aussi pourquoi on n'a pas imité l'exemple du Mali, où la communauté internationale est intervenue avec la France, qui a fait une réaction musclée. Alors, ici, chez nous, on nous abandonne seulement avec les pays africains. Ma réflexion autre est celle-ci aussi. L'intervention de cette brigade spéciale, c'est aussi une humiliation pour nous, les Congolais. Nous devons nous remettre en question. Est-ce que pour défendre vraiment notre pays, le Congo, nous avons besoin de recourir aux troupes étrangères? L'armée angolaise a mis fin seule à sa rébellion là-bas. Ça nous inquiète, nous, les Congolais. Ma dernière réflexion est celle-ci. Il faut qu'on ouvre l'œil. Parce que la guerre à l'Est là-bas, c'est une agression. Le M23, la MONUSCO a fait un rapport. Le M23 est soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Comment va-t-on surveiller les frontières? Et puis, cette brigade spéciale doit savoir qu'elle aura affaire à une agression. D'ailleurs, vous avez suivi que le M23... en train de faire des déclarations, on dirait que le M23 n'est même pas inquiété par la présence de cette brigade spéciale qui va intervenir.
Merci beaucoup, Rifa, de cette contribution. Vous vous inquiétez sur les nombres, hein, 3000, vous estimez que c'est vraiment insuffisant. Vous voudriez savoir si la MONUSCO a changé son mandat. La composition de cette brigade vous inquiète également, d'autant plus que le Malawi et la Tanzanie n'ont pas assez d'expérience en matière de guerre, vous l'avez dit. Alors c'est une honte pour la République. Vous avez évoqué l'exemple de l'Angola qui a travaillé dans le sens de la consolidation de la paix dans ce pays, seul, sans des alliés. Alors, je crois que notre invité pourrait revenir pour vous orienter et éclairer votre opinion. Maître Mashaka est à Lubumbashi. Bonjour, Maître Mashaka.
Bonjour, Monsieur Gire. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Voilà, votre point de vue, Maître Mashaka.
Oui, merci, Monsieur Gire. Moi, pour moi, Monsieur Gire, vous savez que je vois que cette solution-là n'est qu'une solution intermédiaire. Il faut que notre pays puisse trouver une solution définitive. Puisque aujourd'hui, les forces négatives ne se trouvent pas seulement à l'Est là-bas. Ça se trouve un peu partout. Maintenant, lorsque aussi il y aura encore un autre mouvement qui va se soulever, par exemple ici au Patan, comme ça se soulève, ils seront encore obligés de créer encore une autre force d'intervention pour venir intervenir ici au Katanga. La solution définitive, Monsieur Gier, c'est notre gouvernement doit chercher comment renforcer notre armée, comment remettre la morale de notre armée à son titre valeur, Monsieur Gier. C'est à ce moment-là que notre armée doit savoir comment sécuriser nos frontières et rétablir une paix durable. Tout ça, ce sont des solutions intermédiaires, Monsieur Gier. Puisque aujourd'hui, la MONUSCO a fait plus de 12 ans ici au Congo. Ça n'a pas terminé le problème de l'Est là-bas. Mais la mission de cette force ici, c'est pour une année. Si vous êtes sûr que dans une année, ça va mettre fin au désordre des forces négatives là-bas, Monsieur Gier.
Merci beaucoup, Maître Mashaka. Nous allons rejoindre Franck, qui est à Vienne, en Autriche. Franck, bonjour.
Bonjour, Monsieur Gier. Bonjour à l'invité et à tous les compatriotes congolais qui vous suivent.
Voilà, nous avons reçu votre correspondance dans laquelle vous dites que voilà, c'est quand même une position très salitaire. Vous confirmez cela et vous pensez que cette force va définitivement mettre fin à ce cycle d'insécurité dans l'est du pays?
Non, je reconnais que pour l'instant, cette révolution, avec la feuille de route qu'on vient de lui assigner, une brigade offensive, c'est salutaire pour les habitants de la partie est du pays. Mais en bon citoyen congolais, je dois aussi le dire, est-ce que nous devons seulement nous contenter des interventions extérieures pour sécuriser nos frontières? Si nous devons un peu nous rappeler, nous devons encore revoir un peu l'histoire. Vers 2002-2003, il y a eu la force Artemis vers la partie est à Ituri. Quand on préparait les élections de 2006, il y a eu encore une force qui est venue de l'Europe, je crois, l'Europol, pour sécuriser les élections. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Après le retrait de ces troupes, les désordres de rébellion se sont encore donnés rendez-vous avec les habitants de l'Est. Et tout en reconnaissant le bien fondé de cette résolution, nous devons aussi nous dire en tant que citoyens congolais, surtout à nos dirigeants politiques et militaires, que la mission de sécuriser nos frontières revient d'abord à nos peuples congolais. Donc on ne doit pas toujours penser que c'est la MONUSCO qui devra sécuriser toutes les frontières. Et hier, j'étais même content de suivre l'intervention de l'invité qui est dans le studio, qui rappelait encore aux citoyens congolais que le préambule de ce texte demande aux dirigeants congolais de prendre leurs responsabilités. Mais moi, je me demande si nos dirigeants politiques et militaires comprennent d'abord que la mission régalienne de sécuriser les frontières d'un État qui est le leur, leur appartient. Si nous devons seulement nous rabattre à des interventions de brigades, mais après le retrait, c'est comme si on serait seulement un État dont la sécurité frontalière les dispositions de la sécurité frontalière viendraient de l'extérieur. Alors là, ça ne va pas. Je crois que pour le moment, c'est salutaire, mais après le retrait de cette brigade-là, qu'est-ce que ça va devenir si notre propre armée ne s'assume pas, si nos dirigeants ne redeviennent pas responsables pour refondre encore l'identité de notre armée nationale?
Merci beaucoup, Franck. Théodore, vous êtes en Boujimaï. Bonjour.
Bonjour, merci pour la parole.
Oui, votre point de vue, Théodore.
Près de vie, vous savez, l'adoption d'une brigade d'intervention tombe au moment où le Rwanda préside les Nations Unies aujourd'hui. Et vous savez que depuis que le nouveau dirigeant du Rwanda avait pris le pouvoir en 1995, jusqu'à aujourd'hui, une grande partie des interamouins avait traversé avec des armes, étant réfugiés. Et l'Angola et Amiganda plutôt, il y a eu Joseph Kony avec les LRA, qui ont trouvé refuge chez nous. Depuis une décennie, sur les calculs des femmes violées, de tueries, des ressources naturelles pillées, et fait aujourd'hui ces calculs-là, c'est vraiment catastrophique. C'est ainsi qu'après le FDLR et le LRA, il y a eu beaucoup de groupes armés qui sont créés à partir de ces deux pays avec la complicité des Congolais à double nationalité. Alors, moi je suis pour cette brigade et je propose ceci. Comme notre souveraineté est entre les mains des lobbying, je sais, nous savons, et nous devons comprendre que les brigades d'intervention à l'Est, dans la province orientale et au nord Katanga, est nécessaire. Je propose que la MONUSCO, connaissant tous ces coins, doit accompagner cette brigade ensemble avec les FARDC provenant du centre et de l'ouest de notre pays.
Merci beaucoup Théodore. On va terminer ce premier groupe d'auditeurs avec Arsène qui est à Kikwit. Arsène, bonjour.
Bonjour monsieur.
Voilà Arsène, votre point de vue.
Bon, mon point de vue se base juste, je veux seulement séparer les institutions et les hommes qui animent les institutions. Les institutions sont tellement limpides que nous avons remarqué qu'il n'y aura pas de problème. En peu de temps, on va résoudre ce problème et ça serait fini. Mais le problème se pose au niveau des hommes qui animent ces institutions, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national. Il y a de l'hypocrisie notoire. Moi, Arsène, j'essaie un peu de voir les choses depuis les années 60. Comment ça s'est passé? Toujours, on revient au même point, conflit, guerre, qui ne dit pas son nom. Vraiment, dans ces histoires, je trouve qu'il y a une certaine complicité au chef, dont le chef plutôt, des animateurs des institutions. Parce qu'aujourd'hui, le Congo, avoir ce pays, c'est en quelque sorte un bien communautaire de l'humanité tout entière. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi tout ce qu'il y a comme conflit? Pourquoi on ne parvient pas? La solution est simple. Ce sont les animateurs qui sont incompétents. Ça, il faut se le dire. Les animateurs doivent se rendre compte que nous en avons assez. Nous
oui, comprenons. Oui, Arsène.
Le monde entier comprend.
Oui, Arsène. Parce que là,
comment dans d'autres
Arsène,
pays, en moins de temps,
Arsène, est-ce qu'on peut s'écouter, Arsène?
Les gens commencent à
oui,
travailler.
Arsène. S'il vous plaît, Arsène, parce que la question vous est directement posée. Est-ce que vous pensez que cette brigade va définitivement mettre fin à ce cycle de sécurité dans l'Est? Si vous pouvez analyser par rapport à ça, ça serait une bonne contribution.
Ok, merci beaucoup. Cette force va venir, exactement, ils vont se cacher, mais pour moi, c'est une solution intermédiaire. Mais
donc vous rejoignez Maître Machaka qui parlait tout à l'heure de solutions intermédiaires. 081 800 93 15 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Mounoubaï. Vous avez suivi les uns et les autres. C'est vrai, beaucoup d'inquiétudes et aussi des analyses très pertinentes. Comment orientez-vous leurs préoccupations?
D'abord, je crois que c'est une bonne chose que les Congolais s'interrogent, se posent des questions et analysent cette résolution. Et c'est sain. C'est pour ça que j'aime cet échange avec les auditeurs de Radio Okapi. Oui, 3000 personnes, c'est peu. Mais j'espère que nos auditeurs comprennent comment est-ce que les Nations Unies mettent en place leurs forces militaires. Les Nations Unies, en tant que telles, n'ont pas une armée. Et lorsqu'il faut monter une opération, on lance un appel et on a des contributions de troupes. Dans ce cadre précis, je pense que les pays de la SADC ont demandé aux pays de contribuer. Et voici les pays qui ont accepté de contribuer de troupes à cette brigade d'intervention. On ne peut pas faire autrement. Je pense que si l'Angola aujourd'hui voulait contribuer à cette brigade d'intervention, personne ne va l'en empêcher. Mais ce n'est pas aujourd'hui le cas. Nous travaillons donc avec ce que nous avons. L'exemple du Mali, je pense que ce n'est pas la même chose. Dans le cas du Mali, nous parlons de groupes terroristes dont la plupart viennent de l'extérieur du pays, qui s'adonnent à des trafics de drogue, qui utilisent une idéologie religieuse pour, étendre leurs tentacules. Ce n'était pas seulement au niveau du Mali, mais c'est au niveau de toute la zone sahélienne. Donc, tous les pays de la région ont pris conscience de ce danger et je pense que cela a fait la différence pour amener la France à réagir aussi rapidement.
Le mandat de la MONUSCO ?
Le mandat de la MONUSCO, dans une certaine mesure, oui, le mandat a été renforcé, mais avec la brigade d'intervention, aujourd'hui, la MONUSCO a aussi reçu l'autorisation de poursuivre, d'attaquer et de neutraliser les groupes armés, ce qui n'était pas le cas dans la précédente résolution. Aujourd'hui, le mandat autorise la brigade à neutraliser les groupes armés.
Oui. Alors, le Malawi et la Tanzanie n'ont pas assez d'expérience de guerre, comme l'a dit Ruffin. Est-ce que vous confirmez cela? La Tanzanie, le Malawi, le problème d'expérience des guerres se pose.
Je ne crois pas, je pense, si ma mémoire me sert correctement, je pense que la Tanzanie avait joué un rôle décisif dans le renversement du président Amin à l'époque. C'est le seul fait de guerre qui me vient à l'esprit tout de suite, mais ce n'est pas parce qu'une armée n'est pas engagée militairement dans une guerre qu'elle n'est pas forte. C'est bien pour ça que les armées ont des opérations. D'abord, c'est pour ça qu'elles existent. C'est pour ça qu'elles ont des opérations, qu'elles ont des entraînements. C'est pour pouvoir, en cas de nécessité, aller sur le terrain et faire le travail et accomplir la mission qui est la leur. Donc, dire parce qu'ils n'ont pas fait la guerre, ils ne sont pas en mesure de se battre, je ne pense pas que c'est un bon raisonnement. Une armée existe bien pour ça, pour faire la guerre.
Alors, Maître Machak a parlé de la solution. Au fait, une force d'intervention rapide n'est qu'une solution intermédiaire. Et là, pour lui, il dit il faut que cette force travaille pour ratisser toutes les poches d'insécurité à travers le pays, ou des poches d'insécurité qui existent encore à travers le pays, parce qu'il n'y a pas seulement les cas de l'Est de la République, donc par de Nord Kivu, Sud Kivu, parce que tout récemment, on a connu des problèmes au Katanga, et qui sait si un autre problème pourrait arriver ailleurs, selon les esprit de l'intervention de tout à l'heure de Maître Machaka. Donc c'est une solution intermédiaire, mais il faut étendre un peu l'intervention de cette force à travers le pays.
Oui, je partage cette analyse, mais il ne faut pas surtout toujours rester militaristique dans son analyse. Quand il dit que c'est une solution intermédiaire, je suis d'accord avec lui, mais à côté de la solution militaire, il faut une solution politique qui règle les problèmes politiques du pays. Et dans ce sens, oui, je suis d'accord avec lui que la solution militaire n'est qu'intermédiaire, mais une solution pour une paix définitive dans un pays après une guerre, c'est toujours une solution politique.
Oui, alors aujourd'hui, c'est vrai, avant de poursuivre encore les interventions de tout à l'heure avec Franck de Vienne et Théodore de Ndoujimaï, il y a une question qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Avec le pourparler de Kampala, est-ce que par rapport à la résolution 2098, est-ce que ces négociations valent encore son pesant d'or?
Écoutez, je peux peut-être me permettre de faire le parallélisme avec la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale n'intervient que dans la mesure où la justice nationale n'est pas en mesure de traiter le cas. Et je pense que dans le cas actuel, si le M23 ou autre groupe armé décide de renoncer à la lutte armée et de trouver une solution politique, je pense qu'il revient au gouvernement de la République démocratique du Congo de dire que ce groupe, nous sommes en pourparlers politique avec eux et puisqu'ils ont renoncé à une lutte armée. Mais tous les groupes armés qui ne vont pas renoncer à la lutte armée et qui voudront s'engager attaquer les institutions démocratiques de ce pays par les armes, je pense qu'il n'y aura pas d'autre moyen, mais ils devront trouver en face de cette brigade.
Mais nous avons déjà suivi des réactions de la part de M23 qui opère actuellement sur le terrain avec Sultan Makenga, qui a déjà des réactions. Il s'oppose catégoriquement à cette résolution 2098.
C'est pour ça que je dis, il revient à lui de donner les gages au gouvernement qu'il a renoncé entièrement à la lutte armée et qu'il se place désormais sur le plan politique.
Voilà, alors on va poursuivre avant d'accorder la parole à Samy Demahagi et aux autres qui sont déjà en ligne. Franck de Vienne, qui parlait tout à l'heure des interventions extérieures, il a évoqué, historiquement parlant, de 2002-2003, l'intervention avec la force Artemis, et puis il a évoqué Paul en 2006. Après après les interventions de toutes ces troupes, on a remarqué qu'il y a eu une résurgence encore de groupes armés. Et c'est comme s'il n'y a pas eu pérennisation, il n'y a pas eu stabilisation, pacification définitive de la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a des interventions et après il n'y a pas de...
Et je pense que c'est un bon exemple. Prenons le cas de l'Ituri, où à l'époque c'était un no man's land, les miliciens faisaient la loi... Artemis est venu et après 92 jours s'est retiré pour permettre aux brigades de la MONUSCO de prendre place. Qu'est-ce qu'on a vu en Ituri? On a vu la mise en place de l'administration intérimaire de l'Ituri, on a vu la mise en place d'institutions politiques en Ituri qui, toutes ces institutions travaillant ensemble, ont ramené la paix en Ituri. La guerre avait cessé en Ituri. Aujourd'hui, l'Ituri avait commencé à retrouver le chemin du développement économique. Qu'est-ce que nous constatons? Les groupes armés reviennent encore, obligeant, voulant peut-être nous ramener encore à la cause
de la
départ.
Présence, quelque timide, des Mororos.
Les Mororos, c'est un peuple éleveur qui est beaucoup plus, je dirais, dans la région. Beaucoup plus à l'extrême nord-est. Ce n'est pas le cas, je parle du FRPI, etc., qui ont repris les armes. Et c'est ça le problème. Une fois qu'on a signé des accords avec le gouvernement, qu'on a intégré le système politique, il faut garder la lutte dans le domaine politique. Il ne faut plus repartir et reprendre les armes. Et parce qu'une fois qu'on reprend les armes, on ramène encore la désolation et la mort parmi la population civile.
081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Tout à l'heure, il y avait l'intervention de Théodore de Mbujimayi. On va revenir sur ça. Et puis Arsène de Kikwit qui parlait des institutions. Nous prenons la deuxième série des auditeurs. Samy Kietamagi, Moussafiri Aboutembo et Richard à Kinshasa. Samy, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi ainsi qu'à l'invité Monsieur Manouj.
Voilà, vous avez suivi notre invité ainsi que vos prédécesseurs qui ont donné leur point de vue par rapport à la question du jour et vous avez la parole à votre tour.
Ok, merci beaucoup une fois de plus. Je pense que mes prédécesseurs ont dit que ce qui est important sur la présence donc de cette force, cette unité qu'on appelle Brigade d'intervention rapide de la République démocratique du Congo. Je pense qu'en abondant dans le même sens, je vais axer mon intervention sur deux volets. Le premier volet, c'est que nous constatons tous que la paix à la République démocratique du Congo est une priorité pour les États amis de la République démocratique du Congo et surtout les Nations Unies, et non pas pour le Congolais eux-mêmes. Vous savez, la victoire diplomatique, s'il y en a, est avant tout une victoire française, car c'est la France qui s'est bâtie depuis quelques temps sur tout le front diplomatique à lier la place de la République démocratique du Congo. Donc la résolution 2098 qui vient d'être adoptée à ces jours est une proposition française et l'implication de la République démocratique du Congo n'a été que secondaire. Alors, il a fallu seulement quelques temps pour la France de faire adopter une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que les discussions politiques engagées par le gouvernement congolais et les rebelles du M23 à Kampala s'éternisent. Vous savez, elles ont commencé depuis le 9 décembre et elles se poursuivent jusqu'à ce jour. On sait pour quelles raisons.
Jusque-là, il n'y a aucune solution qui n'est trouvée. On ne sent donc même pas une réelle volonté de trouver un accord entre les deux parties. Donc on peut dire que c'est la solution diplomatique qui semble être trouvée jusque-là, mais le problème politique reste en crise. Ça, c'était pour ce qui concerne le premier volet. Dans le deuxième volet, je trouve que les champs d'action de cette brigade d'intervention semblent être flous. Si vraiment l'on veut mettre fin à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, il faut qu'on arrive à s'occuper de tous ces groupes armés comme les autres auditeurs l'ont dit. Parce que quand on parle de l'est de la République démocratique du Congo, je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec la géographie du pays. Pourquoi? Combien de provinces peuvent être localisées à l'est? Parce que l'attention est toujours focalisée sur le nord Kivu et quelque peu sur le sud Kivu, alors que les forces négatives occupent plusieurs provinces de l'Est. Nous avons les rebelles rwandais, par exemple, de FDLR au nord et au sud Kivu, le rebelle burundais de FNL au sud Kivu, les ADF Nalu ougandais au nord Kivu, plus presque à cheval avec Rikiki. Nous avons aussi la LRA province orientale et d'autres groupes terroristes nationaux comme le MV3, les nombreux groupes Maïmaï que vous connaissez qui pilulent à travers les deux Kivu, la province orientale, la province du Maniema, le Katanga et Anituri. On a encore le groupe de Cobra Matata et Allié et un nouveau groupe non encore identifié qui terrorise très mal la population du territoire de Harou via le Sud-Soudan. Donc, on a des milices dans différentes provinces. Nous disons donc qu'il faut faire beaucoup d'attention parce que nous risquons de chercher une solution superficielle au lieu d'une solution définitive et durable. Monsieur J.R., je vais conclure à trois paragraphes, à trois petits paragraphes.
Oui, Samy.
Il faut tout simplement que le gouvernement congolais s'attelle à organiser le dialogue national réclamé par plusieurs couches sociales de la République démocratique du Congo. Ici à Madi, par exemple, il y a le collectif Sauvons le Congo qui est basé à Madi, qui a aussi proposé la médiation du secrétaire général de la francophonie, M. Abdou Diouf, pour que, après, lorsqu'on va organiser, ce dialogue national,
oui, sur la cohésion,
les Congolais vont arriver à parler de leurs problèmes. Sinon, la paix que cette brigade viendra imposer à l'est du pays sera une paix fragile, M. J.R.
Voilà.
Deuxième point,
oui,
c'est très grave. La RDC a déjà démontré devant la face du monde, de par l'histoire, qu'elle est capable d'avoir une armée forte et dissuasive, tant sur son territoire qu'à l'étranger. Donc nous sommes en train d'entrer dans un processus donc visant à affaiblir notre armée. Nous devons donc nous concentrer sur une réelle réforme de nos forces armées, nos forces de défense, oui.
Voilà, vous êtes sans ignorer que
la RDC...
Oui. Voilà, vous êtes sans ignorer que notre pays s'est engagé dans la réforme la plus profonde de notre armée. Je crois que nous avons suivi tous l'actualité au niveau du Parlement. Il y a la loi, des différents textes qui ont été adoptés et promulgués d'ailleurs pour qu'effectivement on puisse avoir une armée républicaine. Merci Samy. Nous allons revenir sur l'aspect dont on venait d'évoquer tout à l'heure, le dialogue de la cohésion nationale qui pourrait être un de pas ou une condition pour permettre à ces que le travail qui sera fait par la brigade d'intervention rapide puisse donner des résultats escomptés face à ce monstre d'insécurité que nous avons d'ailleurs là évoqué également Rifin en début. Moussa Firi, vous êtes à Boutembo. Bonjour Moussa Firi.
Bonjour Gilles.
Votre point de vue, Moussa Firi.
Bon, moi je trouve que c'est une bonne chose, le fait d'envoyer cette force, cette brigade. Moi, j'ai dit, c'est vraiment une solution, ça fait partie des solutions. Mais j'allais, partant maintenant de l'expérience du passé, moi, j'ai trouvé que cette force ne doit pas venir s'interniser ici au Congo. Nous avions vu avec la MONUSCO, plus elle dure, plus elle devient fragile. Alors, nous avions vu que il y en a qui se livrent même au commerce et à l'achat de matières premières, tout ça. Et ils ne regardent plus à l'objectif, qu'est-ce qui était prévu dans leur mission.
Voilà, Moussa Firi,
ça ne doit pas durer ici.
Oui, Moussa Firi, on va éclairer quand même l'opinion. Je crois que vous suivez de près l'actualité.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'historique d'où est partie la MONUC, en passant par la MONUSCO et aujourd'hui avec la force d'intervention rapide. Est-ce que vous maîtrisez un peu les résolutions ou les mandats des uns et des autres qui ont été accordés par rapport au Conseil de sécurité?
Bien sûr, ça a commencé avec l'observation jusqu'à ce qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, moi je trouve que cette
donc
force
vous
doit être accompagnée.
Vous reconnaissez tout de même qu'il y avait des mandats un peu différents.
Soit accompagnée par FRDC, c'est-à-dire ce sont les gens qui connaissent bien le terrain. Et nous avons vu avec ce qui se passe au Mali. Et cette force aussi, moi je trouve que de la part de notre gouvernement, il faut que nous ayons une politique claire, responsable de la sécurisation. C'est-à-dire, après les interventions, il faut qu'il y ait un suivi. Et c'est ce qui manque dans notre pays. Il faut que nous ayons une politique de suivi. Ça, c'est très important. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Je trouve que cette force, ça fait partie des solutions. Mais que cette force ne puisse pas s'interniser. Donc, il faut qu'il y ait vraiment, je peux dire, une mission précise. Et une fois qu'ils vont descendre sur ce terrain, qu'il puisse réaliser ce qui a été prévu. C'est
ça. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Moussa Firi. On revient ici à Kinshasa. Docteur Richard, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs.
Voilà. Vous avez suivi les uns et les autres, surtout vos prédécesseurs. Oui. Il y a quelques-uns qui sont revenus, qui ont salué, disons, cette résolution 2098. Oui. Déjà pour eux, c'est une victoire diplomatique. Et c'est vrai qu'il y a quelques problèmes au niveau de la démarche politique qui traîne encore. Bon, du côté de la démarche militaire, on sait tout de même que la RDC s'est engagée dans un processus de la réforme de l'armée. Ça pourrait donner des résultats dans les jours à venir. Mais pour vous, est-ce que vous pouvez nous aider pour arriver à avoir les résultats escomptés quant à cette brigade qui sera déployée sur le plan politique? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui. Oui, c'est difficile de répondre à cette question si on ne rentre pas dans les origines des troubles à l'Est. C'est très difficile de répondre maintenant en présence d'une brigade de 3000 hommes destiné ou qui a la mission de donner la paix aux Congolais. Ça, c'est un. Deuxièmement, cette brigade renforcée pour traquer ceux qui maltraitent les Congolais à l'Est signifie l'impuissance et l'incapacité des dirigeants congolais à donner la paix à son peuple. Troisième chose, quand nous regardons les origines des troubles à l'Est et là-bas avec tuerie, avec pillage, avec viol de femmes. Nous trouvons qu'on est en train d'occulter les origines. Dans ces origines, il fallait la chute de Mobutu un moment. Et avant que Mobutu tombe, il fallait qu'Abiarimana tombe pour qu'on fasse entrer les tueurs, les violeurs au Congo.
Oui, Richard, on va gagner du temps.
C'est comme si...
Oui, on va gagner du temps.
Oui, on va gagner du temps.
Comme l'ont dit vos prédécesseurs.
Est-ce que vous pensez que la communauté internationale est en train de sucer le chocolat sucré en nous badigeonnant
Qu'est-ce que vous proposez, Richard?
Cette brigade sera quoi?
Vous préférez que cette brigade fasse quoi, concrètement?
Mais par rapport à la résolution.
Par rapport à la résolution.
7000 hommes sont déjà là, ne font rien. 3000 viendront faire quoi? Ça, c'est endormir le Congolais.
Mais vous êtes sans ignorer, Richard.
La souffrance des Congolais par les dirigeants incompétents.
Richard, est-ce que vous êtes sans ignorer qu'il s'agit là de deux mandats différents?
Mais vous ne pouvez pas mettre dans une maison deux femmes à deux mandats différents. Une qui est là pour la sérénité, ne veut pas mettre au monde, et l'autre met au monde. Pourquoi donner à un homme deux femmes comme ça lorsque les revenus
voilà,
sont moindres?
Merci beaucoup, Richard. On va voir ça avec notre invité. Jean-Vincent, vous êtes à Kinshasa également. Bonjour.
Bonjour, Pierre. Bonjour à l'invité. Notre ami, le porte-parole.
Voilà, Jean-Vincent, vous avez la parole. Jean-Vincent, oui. Vous êtes avec nous? Vous avez la parole.
Oui, Pierre. J'ai salué cette initiative. J'ai écouté hier la conférence de presse tenue par le ministre des Affaires étrangères qui revenait de New York. Nous avons salué cette résolution, mais cela ne nous empêche pas d'analyser comme nationaliste, puisque nous nous disons que est-ce que vous êtes sûr, même le porte-parole qui est là, il connaît bien l'Est, avec 3000 hommes, est-ce que il nous confirme que les 3000 hommes là vont éradiquer l'insécurité à l'Est? Alors je me pose la question, est-ce que la résolution ne pouvait pas demander à la MONUSCO toute entière de se transformer à cette brigade. Là au moins ça nous garantirait, puisque je me dis avec 3 000 hommes, est-ce que nous espérons que vraiment nous aurons la paix, puisque en écoutant les ministres, ils disent non, nous sommes placés par cette résolution, nous pensons que en bas de mourir, nous allons assister à un retour de la paix à l'est de la République. Moi je me dis que c'est un faux débat et c'est une distraction. Si le gouvernement se sent vraiment interpellé, le gouvernement devait encore appuyer davantage pour que qu'on puisse augmenter le nombre de ces soldats-là. Moi, je parie, je donne ma tête à couper.
Voilà, on ne sait pas vous retenir longtemps à l'antenne avec cette mauvaise qualité de communication. Jean-Vincent, bon, on pense à nos auditeurs qui nous suivent en ce moment. Nous revenons à vous, Manoj Mounoubaï. C'est vrai, il y a beaucoup d'appréhension, hein, et il y a aussi des pessimismes qui prend place. C'est vrai, on va revenir sur beaucoup de choses, mais revenons
oui, sur les 3 000. Avant, peut-être que nous ne revenions oui. à ça, JR, si vous le permettez.
Oui,
vous savez, un mensonge qui est répété plusieurs fois tend à devenir une réalité. Et je voudrais ici mettre la pendule à l'heure, parce que encore une fois, j'ai entendu un des auteurs, et je crois que c'est M. Moussafiri, si je ne me trompe pas, dire que le personnel de la MONUSCO s'adonne au commerce et à l'achat des matières premières en République démocratique du Congo. Encore une fois, ce n'est pas vrai, et je mets en défi quiconque de le dire, de le démontrer et de nous apporter les preuves que le personnel de la MONUSCO s'adonne à de telles activités. Je ne veux pas y aller plus loin, je voulais quand même porter cette précision et revenir là-dessus, parce qu'à force de le répéter, ça devenir une réalité. Oui, je suis à vous.
Les nombres, tout le monde, en fait, les gens s'inquiètent un peu sur les nombres. 3 000 avec cette, en fait, les conflits que nous avons, l'insécurité partout. Il y a Samy qui a évoqué, qui a présenté en fait la carte géographique de la situation actuellement où il y a les FDLR, les FNL, les ADF Nanou. Partout, il y a de l'insécurité. Avec 3 000 hommes, vous pensez que on va quand même atteindre une partie de la solution?
D'abord, nous parlons de 3 000 hommes provenant des armées. Ce sont des 3 000 hommes provenant des armées face à des groupes armés. Donc, je dirais que sur le plan professionnel, ils ont une supériorité. Ensuite, ils ont un équipement que les groupes armés ne peuvent pas avoir. Ensuite,
on avait parlé à un certain moment des drones.
Oui.
Est-ce qu'on va utiliser ça?
Oui. Nous n'en avons pas parlé dans cette émission, mais effectivement, nous sommes aujourd'hui au stade de contrat pour avoir ces avions sans pilote qui vont constituer, je dirais, les yeux de la MONUSCO en l'air. Donc cela donnera une plus grande connaissance du terrain et beaucoup plus d'informations sur les mouvements sur le terrain, ce qui va rendre le déplacement et les opérations beaucoup plus efficaces des troupes qui sont à terre.
Donc, ce sont des pays qui se sont déjà prononcés, la République sud-africaine, le Malawi et la Tanzanie, et ceux qui constituent déjà jusque-là 3 000.
C'est eux qui constituent les 3 000. Comme on l'a dit ici, c'est le début d'une opération. Au vu de la situation sur le terrain, le Conseil de sécurité devra ajuster le tir. Nous commençons avec 3 000. Si maintenant, au bout d'un certain temps ou au bout d'un an, lorsqu'il va falloir revoir cette situation, le Conseil de sécurité constate qu'il faut plus d'hommes, il revient au Conseil de sécurité de décider de cela. Mais pour le moment, laissons ces 3 000 hommes arriver et voyons d'abord ce qu'ils vont faire.
Alors Richard qui s'inquiétait dit, c'est comme si, bon, au fait, il a utilisé un peu le terme de l'Africain, hein, au fait, dans la réalité africaine, deux femmes dans une même maison, ça risque de ne pas poser un problème.
Pas au niveau des opérations, puisque, comme vous le savez, toute cette force relève d'un seul commandement, celui du commandant de la force de la MONUSCO. Maintenant, comme vous le savez, il n'y a plusieurs brigades au sein de la force de la MONUSCO. Il y a la brigade de l'Ouest, qui a une région bien déterminée. Il y a la brigade de l'Ituri, qui a une zone d'action bien déterminée. Il y a la brigade du Nord Kivu, qui a une zone d'action bien déterminée. Il y a la brigade du Sud Kivu, qui a une zone d'action bien déterminée. Nous avons maintenant cette brigade d'intervention qui a une mission et une zone bien déterminée. Ça ne doit pas poser de problème au niveau opérationnel. Cela est clair.
Voilà, on va prendre peut-être une autre inquiétude par rapport au dialogue sur la cohésion nationale qui pourrait être aussi un pas pour aider, au fait, cette brigade d'intervention de trouver quand même une solution. Parce qu'aujourd'hui, pour une certaine opinion, s'il y a de l'insécurité, s'il y a des conflits, s'il y a des problèmes, ou la résurgence des conflits, c'est par rapport à des gens parfois qui sont frustrés et qui se mettent à créer de telles situations. Si jamais les Congolais se retrouvaient ensemble pour parler de leurs problèmes, je crois que ça pourrait aider tant soit peu cette brigade à faire correctement son travail et à être efficace sur le terrain.
Mais c'est ce que j'ai dit ici, que la mission de la MONUSCO, qui était la MONUSCO qui est ici pour faire comme une mission de paix, une mission de maintien de la paix, avait justement une mission de créer cet environnement pour permettre aux uns et aux autres d'abandonner la lutte armée et de se parler en toute confiance. Pour vous donner un exemple, par exemple, je reviens encore à la période d'avant 1+4. Après la signature des accords de Sun City et lorsqu'il fallait mettre en place le gouvernement 1+4, il y avait une appréhension et une peur de tous les côtés. Le RCD ne voulait pas venir à Kinshasa parce qu'il avait peur du comportement à Kinshasa. Ils avaient peur de leur sécurité. Le MLC ne voulait pas venir à Kinshasa parce qu'ils avaient peur pour leur sécurité. Et en ce moment, la MONUSCO s'est portée garante. Il dit, ne vous en faites pas, nous assurons votre sécurité, venez à Kinshasa et vous pourrez travailler. Et ça a marché.
Voilà, mais nous allons revenir à vous, le temps d'accorder la parole disons, des derniers auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, Clément Yaïsirou et Jules Lubumbashi. Clément, bonjour.
Bonjour, je voulais intervenir, heureusement que l'invité m'a précédé. Il y a la brigade d'intervention qui sera dépendante et agissante en fonction des renseignements précis qui seront fournis par les avions sans pilote. Et en cas maintenant où ces avions pourront faillir à leur mission par des conditions météorologiques difficiles ou suite aux régions montagneuses de l'Est, à quand sera la fin de cette guerre et combien coûtent ces avions? Mais ce n'est pas le sujet
voilà.
du jour, mais
oui, vous l'avez reconnu, ce n'est pas le sujet du jour, mais on va tout de même chercher à nous faire une idée par rapport à ça. Merci Clément. Jules, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Ouais, bonjour monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez juste une minute, Jules.
Ok, merci. Bon, moi j'ai envie de dire ceci. Nous avons la MONUSCO qui a 17 000 militaires, qui a un budget aussi colossal, lourdement armé. Pourquoi, bon, je me demande, les mandats qu'on a donné à cette brigade-là, pourquoi on n'a pas donné ça à la MONUSCO, qui connaît légèrement le terrain? Parce que lorsqu'on regarde cette brigade qui viendra, il ne connaît pas le terrain normalement. Lorsque nous suivons chaque fois la conférence de presse et demandée de la MONUSCO, lorsqu'on pose certaines questions, il répond, nous ne pouvons pas être déployés partout parce suite à l'inaccessibilité du milieu. Bon, maintenant la brigade qui viendra, qui ne connaît pas très bien le milieu, comment il va agir?
Voilà, merci beaucoup. Merci Jules. 081, on va terminer, on n'a plus assez de temps. On va peut-être vous accorder la parole très prochainement. Mais nous vous disons merci, hein, vous tous qui souhaitez d'ailleurs intervenir dans cette émission. Bon, ce n'est qu'une partie remise, on reviendra demain.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va conclure avec vous, Mandela Djimounoubaye, porte-parole de la MONUSCO. Et c'est vrai, bon, il y a des inquiétudes. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui avec la résolution 2098?
La résolution 2098 est une... le contenu de cette résolution est très novatrice. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que les Nations Unies, dans sa mission de maintien de paix dans le monde, met côte à côte une mission de maintien de la paix et une mission d'imposition de la paix. Il faut donner la chance à cette résolution de faire ses preuves sur le terrain. Et pour cela, on a besoin de la confiance des Congolais et on a besoin de la coopération des Congolais. Donnons le temps au temps et nous verrons si cela va marcher ou pas. Mais et encore une fois, la solution congolaise n'est pas seulement militaire. Les militaires, cette solution militaire, doit aussi être soutenue par une action politique. Et l'action politique, ce n'est pas la MONUSCO qui va l'entamer. Ce sera donc aux Congolais eux-mêmes de se décider de faire taire les armes et de, je dirais, s'engager beaucoup plus activement sur le plan politique. Et je pense que si les Congolais avaient mis autant d'énergie dans la lutte politique que dans la lutte armée, aujourd'hui, ce pays ne serait pas dans l'état où il est aujourd'hui.
Voilà, donc on peut espérer, parce que là, il y a déjà des gens qui spéculent que la brigade pourrait intervenir à partir du mois de juillet. Je crois que c'est à tort ou à raison qu'ils les disent, qu'ils avancent déjà une telle date. Parce qu'il n'y a pas une date qui est engagée, qui est déjà lancée, qui est donnée.
Non, il n'y a pas une date qui est engagée, mais je peux déjà vous dire que sur, ici, aujourd'hui, sur le terrain, les tractations sont en cours pour déjà trouver le terrain, parce qu'il faut trouver là où ces militaires seront positionnés, signer les contrats nécessaires et commencer les constructions.
Ils auront leur quartier général dans l'est, la partie est de la
l'est. Le quartier général sera à Goma, mais ils ne seront pas tous à Goma. Et aujourd'hui, déjà, je peux vous dire que dans les semaines à venir, les constructions vont commencer pour recevoir ces différentes brigades.
Manoj Mounoubaï, nous vous disons merci et nous rappelons que vous êtes le porte-parole de la MONUSCO. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir fait ces déplacements, les déplacements de ce studio.
C'est toujours un plaisir que d'échanger avec les auditeurs de Radio Okapi et merci beaucoup.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Voilà, nous vous disons merci. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Paulin Bagnagnam qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou l'a réalisée sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission donc sur www.radiookapi.net. À très bientôt.